Des proches de djihadistes étrangers du groupe État islamique enfuis d'un camp dans le nord de la Syrie. Inquiétude de la France, nous serons dans la région kurde de Syrie dès le début de ce journal. Pour que cessent les violences entre bandes rivales, un millier de personnes rassemblées devant le stade des Lilas où Kevi, 15 ans, a été mortellement poignardé. 2 heures encore pour voter, élection à la présidence du parti Les Républicains, 3 candidats pour tenter de sortir la droite du marasme. Et puis du réconfort malgré le passage d'un typhon meurtrier au Japon pour la première fois de son histoire. L'équipe de rugby japonaise s'est qualifiée pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde.
France Inter.
Les civils, une fois de plus, paient un lourd tribut dans le nord de la Syrie. Au moins 26 personnes sont mortes aujourd'hui dans des bombardements ou des tirs des forces turques engagées dans une offensive contre une milice kurde. Depuis mercredi, plus de 60 civils tués. L'Allemagne et la France ont suspendu hier les exportations d'armes vers la Turquie. Et Paris, ce soir, se dit inquiète après l'annonce de la fuite de près de 800 personnes du camp d'Ayn Issa, situé dans la zone des combats. Aurélien Colli, vous êtes à Kamishli, la région kurde de Syrie pour France Inter. Ces personnes sont des proches de djihadistes étrangers du groupe État islamique auraient réussi à s'évader.
Oui, c'était le camp d'Ayn Issa ouvert en 2016. C'est 13 000 personnes environ qui avaient fui la ville de Raqqa, alors capitale syrienne de Daesh, lors des combats pour sa libération. Sur ces 13 000 personnes, un peu moins de 1 000 sont des familles de djihadistes, essentiellement des étrangers, qui vivaient dans une section fermée du camp. Selon les forces kurdes, il y a eu d'abord des bombardements turcs à proximité du camp, puis des déplacés de la section ouverte ont décidé de partir. Mais des cellules dormantes de Daesh qui s'étaient introduites dans cette section ouverte ont lancé des attaques pour faciliter l'évasion des captifs de la section fermée. C'est le scénario des forces kurdes qui n'ont cessé de demander aux pays occidentaux de rapatrier leurs ressortissants, qui avaient mis en garde aussi sur la difficulté qu'elles auraient à maintenir la sécurité de ces camps en cas d'offensive turque. L'évacuation du camp d'Ayn Issa s'est posée vendredi, 48 heures après le début de l'offensive turque, mais elle n'a pas été mise en œuvre parce que des milliers de civils fuyaient déjà la zone frontalière et parce que les forces kurdes se concentraient sur leur résistance.
Aurélien Colli avec la technique de Benjamin Chauvin. Et ce soir, l'armée turque affirme avoir pris le contrôle d'un important axe routier dans le nord-est de la Syrie, reliant des territoires contrôlés par une milice kurde. L'offensive turque incite les États-Unis à évacuer environ 1 millier de soldats du nord de la Syrie. Décision de Donald Trump. La situation en Syrie sera l'un des sujets de discussion également entre Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel. Ils se retrouvent tout à l'heure à l'Élysée, mais également l'Union européenne, autre sujet, avec le récent rejet de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne. Emmanuel Macron recevra d'ailleurs demain à l'Élysée la présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. 3 adolescents morts dans des rixes au Lila en Seine-Saint-Denis en 1 an, victimes d'une guerre entre quartiers et plus d'un millier de personnes dans la rue tout à l'heure pour demander la fin de ces violences. Marche blanche pour Kevi, tué à coups de couteau il y a un peu plus d'une semaine. Cortège silencieux, sa famille, des proches, des habitants massés derrière une banderole unie contre la violence. Justice pour Kevi, Adrien Toffolé.
Dans les rues du Pré-Saint-Gervais, parmi des centaines de personnes désabusées, Jamila, ses enfants à côté d'elle, un t-shirt à l'effigie de Kevi sur le dos, cette proche de la famille n'en revient toujours pas.
Ça nous a vraiment beaucoup touchés parce que c'est un garçon très très bien, c'est pas un délinquant, donc il mérite pas tout ça.
Dans ces quartiers, on se révolte tous les jours de voir de telles rixes violentes. On alerte les plus jeunes. Georges, éducateur au club de foot du Pré-Saint-Gervais, le faisait encore la veille du drame.
Arrêtez vos histoires de guerre, Lila, après. Tous les jours, on leur parle à l'entraînement. Arrêtez ces trucs-là, ça sert à rien. Puisque regardez là, aujourd'hui, où qu'on est là. Vous avez vu tout le Pré-Saint-Gervais, on est tous là et là il est parti, c'est fini. Hein.
Pour les jeunes en particulier, la peur des violences au quotidien n'est plus tolérable. Célia est une des camarades de classe de Kevi.
Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus se déplacer sans risque ou bien même sans la crainte de perdre la vie. Et cela dure depuis maintenant 20 ans. Nous demandons que les violences cessent.
Devant le stade où Kevi s'est fait poignarder, sa famille lui rend hommage et tient surtout à ce que sa mort n'alimente pas la guerre entre bandes. Il y a déjà eu assez de victimes, rappelle Daniel Guiraud, le maire des Lilas.
Richard des Lilas, il y a 3 ans, Aboubacar de Bagnolet et du Pré-Saint-Gervais, il y a 1 an, Cameron, à Romainville, il y a 4 mois à peine. Et aujourd'hui, Kevi, il n'est pas question de rester l'arme au pied en attendant le prochain. Plus jamais ça.
Les élus des deux villes ont d'ailleurs interpellé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il réclame plus de moyens dans l'éducation, mais surtout la sécurité pour lutter contre ce fléau.
Et il y aurait 20 à 30 incidents graves tous les jours dans les écoles de France, nombre révélé par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Y aura-t-il besoin d'un second tour le week-end prochain pour élire le président du parti Les Républicains? Le premier tour s'achève dans un petit peu moins de 2 heures maintenant. Fin du vote pour départager Christian Jacob, le patron des députés LR, et les députés Julien Aubert et Guillaume Larrivé à 17h. 20h, le taux de participation était de 40%, soit 53 349 votants selon la haute autorité du parti. Un vote électronique, pas forcément facile d'accès pour tout le monde. Cécilia Arbonnat s'en est rendu compte. Reportage dans les Hauts-de-Seine où un seul bureau est ouvert à Neuilly-sur-Seine, fief de Nicolas Sarkozy.
La permanence est située au rez-de-chaussée d'un immeuble haussmannien. Pas évident d'entrer, il y a un code d'accès pour ouvrir la porte cochère.
Il faut appeler 011, c'est ça ?
À l'intérieur, Adeline répond à des militants un peu perdus chez eux. Ce monsieur n'a pas réussi à se connecter. Il a fini par se déplacer.
Parce que je suis nul et j'ai pas été retrouvé dans tous mes papiers mon mot de passe.
Trois candidats briguent le fauteuil de président, Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé.
J'ai lu dans Valeurs Actuelles ce que disait le premier, comment il s'appelle, comment ?
Jacob ?
Non. Oui, Jacob, il me plaît pas tellement. Ça fait longtemps qu'il traîne déjà dans les ministères, donc non.
J'ai envie de renouveau, là.
Oui, exactement. Et de la vraie droite, hein, pas de la droite molle. J'ai voté pour Monsieur Aubert. Merci. Hein.
Contrariée d'avoir oublié des documents chez elle, cette dame de Suresnes va devoir revenir, mais c'est pour la bonne cause.
Ah ben, je reviendrai pas si j'étais pas pleine d'espoir. Mettre 3 heures pour pouvoir voter, faut quand même être un petit peu, hein. Toc, toc, ah oui. Faut quand même qu'on se secoue un peu, hein.
Un habitant de Neuilly s'exaspère quand on lui parle d'hémorragie d'adhérents et de partis affaiblis.
On a quand même un certain nombre de députés, de sénateurs, de mairies. Et il nous faut un nouveau président, mais on n'est pas à terre.
Les résultats de ce premier tour seront proclamés au siège des Républicains dans le 15e arrondissement de Paris vers 20h30.
Cécilia Arbonnat, émission de celui qui succédera à Laurent Wauquiez, relever un parti en perte de vitesse et trouver sa place dans un espace politique réduit, alors que nombreux ténors ont quitté le navire. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a indiqué tout à l'heure chez nos confrères de LCI qu'il allait évidemment quitter le parti Les Républicains, considérant que la politique d'Emmanuel Macron est globalement la meilleure que le pays peut avoir. Le sourire des rugbymen japonais un peu terni par le passage du typhon qui a fait au moins 26 morts au Japon. C'est une première dans son histoire. Cette équipe du rugby du Japon s'est qualifiée pour les quarts de finale du mondial chez elle au Japon. Victoire face à l'Écosse, 28-21. Sentiment évidemment contrasté pour le capitaine japonais Michael Letch.
C'est tellement beau ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'était bien plus qu'un match pour nous. Cette rencontre a failli ne pas avoir lieu. Nous tenions vraiment à la jouer juste pour vivre ces moments-là. Nos cœurs ce soir vont vers ceux qui ont souffert avec ce typhon. C'est une incroyable fierté. Nous avons travaillé tellement dur pour y arriver et émotionnellement, c'est très fort ce que nous vivons. Maintenant, nous représentons l'Asie, nous représentons le Japon. Nous donnerons tout pour ce quart de finale.
Des propos recueillis par Jérôme Val et le programme des quarts de finale. Samedi, l'Angleterre affrontera l'Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande. Dimanche, le Japon donc sera opposé à l'Afrique du Sud et puis la France au Pays de Galles. Deux records battus aujourd'hui. La Kenyane Brigitte Kosgei pulvérise le record de marathon chez les femmes. 2h14 minutes 4 secondes à Chicago. C'est 1 minute et 21 secondes de moins que le précédent record de Paula Radcliffe qui datait 2003. Et puis à 22 ans, l'américaine Simone Biles, elle, détient désormais le record de médailles mondiale pour un ou une gymnaste. 25 médailles, dont 2 rien qu'aujourd'hui à la poutre et au sol aux mondiaux de gymnastique à Stuttgart en Allemagne. 25 médailles, dont 19 en or. On fait un point sur vos conditions de circulation avec vous, Laurine Ben-Gebria. Ça roule difficilement aux abords de Paris, comme d'habitude.
Et oui, ça coince au nord sur l'autoroute A1 et sur l'A3 depuis le Bourget, au sud sur la 6 A et B depuis Vissous et à l'ouest sur la 13 avec un bon quart d'heure de ralentissement de Roquencourt jusqu'à la porte d'Auteuil. Le périphérique est aussi embouteillé côté extérieur de la porte d'Auteuil à la porte d'Orléans et côté intérieur de la porte de Bagnolet à la porte de Bercy. Dans le nord, vous êtes nombreux à vouloir rejoindre l'île depuis Dunkerque avec quelques kilomètres de ralentissement à prévoir sur l'autoroute A25. En Occitanie, c'est compliqué pour rejoindre Toulouse via la 61 depuis Carcassonne et via la 64 depuis Muret, puis sur la moitié sud du périphérique extérieur.
Laurine Ben-Gebria au PC Mobilité de Radio France. Quel temps pour demain ?
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Jean-Michel Golinski, Météo France.
Ce lundi, de la frontière allemande à la Bourgogne, en allant vers l'est du Rhône, le soleil va particulièrement bien résister. Par contre, plus au nord et à l'ouest, les conditions seront beaucoup moins agréables. Avec de la pluie en matinée dans le golfe du Lion et du nord de la Loire à la Belgique, l'ambiance devenant orageuse en fin de journée. De l'Occitanie au centre, ciel variable avec une probabilité d'averse plus avérée l'après-midi. Mais c'est surtout de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Loire que le temps va devenir très agité en cours d'après-midi, avec une activité électrique importante, de fortes averses, de la grêle et des rafales, le tout dans des températures qui vont tout de même se maintenir à un niveau élevé pour les saisons.